Et c'est l'heure du journal avec vous, Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche ce soir sur la situation en République démocratique du Congo. Près de 15 jours après l'élection présidentielle, la situation est toujours confuse à Kinshasa. Martin Fayoulou continue à contester les résultats et la victoire annoncée de Félix Tshisekedi. Soutenu par l'Église, il déposera demain un recours devant la Cour constitutionnelle. Jour de paye, sans paye aux États-Unis où le shutdown continue. Si aucune solution n'est trouvée dans la journée, ce blocage de l'administration fédérale deviendra le plus long de l'histoire, ce qui pourrait inciter Donald Trump à utiliser des procédures d'urgence. Dans ce journal, l'analyse de Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis. En France, la crise des gilets jaunes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Demain, les autorités se préparent à de nouvelles scènes de violence alors qu'Emmanuel Macron annonce pour lundi sa lettre aux Français et que le Premier ministre consultent syndicats et associations sans rien dévoiler pour l'instant du grand débat. Et puis l'enquête de cette édition sur le détournement de l'indemnité de frais de mandat par plusieurs parlementaires déjà visés par la justice. Enquête signée Sylvain Tronchet. En RDC, l'élection présidentielle n'est peut-être pas jouée. Les électeurs ont voté, les résultats ont été proclamés, mais un des candidats malheureux a décidé de prolonger le combat sur le terrain administratif et juridique. Martin Fayoulou, adversaire de Félix Tshisekedi dans le camp de l'opposition, ne reconnaît pas sa défaite et demande non pas l'annulation de l'élection, mais simplement le recomptage des voix. Estimant avoir gagné avec 61% des suffrages, il annonce vouloir saisir dès demain la Cour constitutionnelle congolaise. Anthony Fouchard.
Au lendemain de la proclamation des résultats, Martin Fayoulou a réuni ses militants à Kinshasa. Une sorte de meeting politique, autant pour contenir ses troupes après les violences qui ont émaillé la journée d'hier, que pour annoncer sa volonté de ne pas se laisser voler sa victoire, dit-il. La différence de voix entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur provisoire, est de moins de 700 000. Or, quelques jours avant le scrutin, la commission électorale a exclu du vote plus d'1 200 000 électeurs, dans des zones touchées par Ebola notamment. Des régions considérées comme des bastions de l'opposition. Martin Fayoulou demande donc le recomptage manuel de tous les bulletins et surtout que le vote soit organisé partout sur le territoire. Pas sûr que sa requête aboutisse, la Cour constitutionnelle est réputée acquise au régime du président sortant. Quoi qu'il en soit, si l'élection venait à être annulée ou si un nouveau vote partiel devait avoir lieu, c'est bien Joseph Kabila qui en sortirait gagnant. C'est lui qui reste au pouvoir jusqu'à la proclamation définitive d'un nouveau président.
Anthony Fouchard, la conférence épiscopale du Congo souhaite ce soir que le Conseil de sécurité demande à la commission électorale la publication des procès-verbaux du scrutin pour enlever les doutes et apaiser les esprits. De son côté, le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de soutenir les nouvelles autorités élues. Conseil de sécurité qui doit se réunir ce soir à New York sur la situation du pays. C'est Payday aujourd'hui aux États-Unis, le jour de paye qui, pour quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux, prendra une bien triste tournure en raison du shutdown qui paralyse le pays depuis désormais 3 semaines. Les salaires ne seront tout simplement pas versés. La nuit prochaine d'ailleurs, ce blocage institutionnel et politique deviendra le plus long de l'histoire des États-Unis. Il est dû à la résolution des démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, qui refusent de financer le mur voulu par Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Donald Trump qui avait promis pendant la campagne de faire financer ce mur par Mexico et qui désormais, totalement impuissant, envisage de recourir à une procédure d'urgence pour trouver les quelques 5 milliards de dollars nécessaires. Les explications de Corentin Célin, il est professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis.
Ce serait une tentative quand même assez rare de contournement du Congrès et ça reposerait un problème qui est latent dans la Constitution des États-Unis depuis 70 ans et qui est le suivant. Est-ce que le président, au nom d'impératifs de sécurité nationale, on le voit bien ici, hein, ce serait le problème à la frontière qui serait un problème de sécurité nationale, est-ce que le président peut à ce titre contourner les habituels contre-pouvoirs, dont celui du Congrès? La Cour suprême, il y a très longtemps, en 1952, avait en quelque sorte mis un frein à cet emploi de l'état d'urgence en interdisant au président Truman à l'époque, dans un autre contexte, celui de la guerre de Corée, de nationaliser le secteur de l'acier au nom de la sécurité nationale. Très vraisemblablement, cette nouvelle déclaration d'état d'urgence par Trump amènerait de nouveau la Cour suprême à se pencher sur ce cas et à se demander si un président, parce qu'il en a envie, peut déclarer un état d'urgence pour faire passer en fait son agenda programmatique.
Quels sont les recours ?
Le premier recours le plus évident est que la loi de 1976 sur les déclarations d'état d'urgence prévoit que le Congrès pourrait voter contre cette déclaration. Mais on le sait, le Sénat est républicain, donc cette première option est à oublier. La seule option qui reste ensuite, ce sont des procès, des plaintes devant le judiciaire, des plaintes qui remonteraient obligatoirement jusqu'à la Cour suprême.
Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, auteur des États-Unis et le monde entre 1823 et 1945, un livre paru aux éditions Atlante. Il répondait aux questions de Valérie Crova. La jeune Saoudienne de 18 ans qui s'était réfugiée en début de semaine dans une chambre d'hôtel de l'aéroport de Bangkok a finalement obtenu l'asile au Canada, d'après une information obtenue par l'agence Reuters. Placée depuis son exil sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, elle avait refusé d'être expulsée de Thaïlande vers son pays d'origine, mais elle avait depuis demandé l'asile en Australie. Les autorités canadiennes ont visiblement été plus rapides. Raaf Mohamed Al-Kounoun partira ce soir vers le Canada via Séoul. En Suède, la jeune militante Greta Thunberg, dont le visage avait fait le tour du monde après son discours marquant en ouverture de la COP24 à Katowice en Pologne début décembre, cette jeune lycéenne est toujours en pleine lumière dans son pays. Elle poursuit chaque vendredi la grève scolaire entreprise cet été devant le Parlement à Stockholm, et son combat lui vaut à la fois l'admiration de milliers de jeunes dans le monde et la hargne de très nombreux haters et autres trolls sur les réseaux sociaux qui organisent désormais un véritable cyberharcèlement sur la jeune fille, Anne-Françoise Hiver.
Deux nattes blondes autour d'un visage poupon. De premier abord, Greta Thunberg ne fait pas peur. Quand elle commence à parler, c'est autre chose. La collégienne ne mâche pas ses mots. Diagnostiquée Asperger, une forme d'autisme à 11 ans, elle dit voir les choses en noir et blanc. Ça tombe bien. La crise climatique n'est pas une zone grise, martèle-t-elle partout où on l'invite, depuis que sa grève scolaire s'est transformée en un mouvement mondial. Greta Thunberg et ses 85 000 followers sur Twitter dérangent. Ça se sent aux réactions sur Internet. Climato-sceptiques, sites d'extrême droite, trolls en tout genre en ont fait la cible de leurs attaques. La collégienne, selon eux, serait coachée par une équipe de communicants, manipulée par sa mère, la chanteuse d'opéra Malena Erdmann. Pour preuve, le livre que celle-ci a publié juste avant le début de l'action de sa fille. Dans un message sur Facebook le 7 janvier, la mezzo-soprano dément. Non, elle n'a pas encouragé Greta. Au contraire, elle lui a rappelé que sa place était à l'école et qu'elle ne pourrait la soutenir, même si c'est bien le père qui l'accompagne dans ses déplacements, toujours réalisé avec l'assentiment de l'école et sans attaché de presse.
Anne-Françoise Hiver à Stockholm pour France Culture. Toujours en Suède, les partis de gouvernement sortants, sociaux-démocrates et verts, ont présenté aujourd'hui un projet d'accord avec le centre et les libéraux en vue de constituer une coalition minoritaire, 4 mois déjà après les législatives du 9 septembre qui ont fragmenté le paysage politique du pays. En Corée du Nord, ne pas oublier la question des droits de l'homme qui ne saurait être occultée par les progrès réalisés en matière de dénucléarisation. C'est l'avertissement lancé aujourd'hui à Séoul par le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme dans le pays. Depuis la capitale de Corée du Sud, Thomas Quintana a rappelé que le peuple nord-coréen continue à souffrir. Frédéric Ojardias.
Lors de sa visite à Séoul, Thomas Orea Quintana a rencontré plusieurs Nord-Coréens récemment réfugiés au Sud. Le rapporteur spécial de l'ONU rappelle qu'en dépit du processus de dialogue, la Corée du Nord continue de violer les droits les plus élémentaires de sa population et maintient un vaste système de camps de détention.
La peur d'être renvoyé dans ces camps de prisonniers politiques est très réelle et profondément enracinée dans la conscience des Nord-Coréens ordinaires. Aussi réel que le contrôle exercé par le régime sur sa population. Un réfugié m'a dit « Le pays entier est une prison ». Je lance un appel à la communauté internationale, en particulier aux pays impliqués dans les pourparlers de paix et de dénucléarisation. La communauté internationale a la responsabilité historique de ne pas négliger les droits de l'homme en Corée du Nord et de continuer à les défendre. Quand toutes les parties discutent de paix, elles discutent de paix au bénéfice de qui ?
Tomás Oreja Quintana veut cependant voir des signes d'optimisme dans le discours prononcé par le dirigeant nord-coréen le 1er janvier. Kim Jong-un a en effet appelé à améliorer les conditions de vie de sa population, ainsi que les conditions de travail dans les mines. Le rapporteur de l'ONU y voit une ouverture et il appelle Pyongyang à l'inviter pour discuter directement des droits de l'homme. Mais le régime refuse, il nie toute violation et il accuse les États-Unis d'instrumentaliser cette question pour accroître les pressions à son encontre.
Frédéric Ojardias. En France, le parquet national financier a requis aujourd'hui le renvoi devant un tribunal correctionnel de Pénélope et de François Fillon. L'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle en 2017, et son épouse, ainsi que l'ancien suppléant Marc Joulot, sont poursuivis pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et escroquerie aggravée. Reste au juge maintenant à se prononcer sur cette réquisition du parquet. L'un met la dernière main à sa lettre aux Français qui sera publiée lundi, c'est désormais officiel. L'autre reçoit, écoute et consulte. Les deux têtes de l'exécutif préparent activement le lancement du grand débat national censé, sinon mettre un terme au moins, apaiser la colère des Gilets jaunes qui doivent se retrouver une nouvelle fois dans la rue demain. On va y revenir pour un 9e samedi de manifestation. Bonsoir Pauline Renoir.
Bonsoir.
Président de la République et Premier ministre vont tenter de taper vite et fort pour reprendre l'expression employée hier par Édouard Philippe en déplacement en Allemagne. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas autour de quelles questions précises tournera le grand débat annoncé. Ce matin, vous étiez à Matignon, Pauline, où 20 représentants syndicaux ont été reçus, consultés, et d'où ils sont ressortis sans aucune info.
Oui, les syndicats ont bien tenté de faire durer la réunion alors qu'une autre consultation attendait le Premier ministre, mais rien. Ils n'en savent pas plus sur l'organisation du grand débat. Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière.
Nous ne serons pas organisateurs ni co-organisateurs. Nous ne pensons pas devoir nous substituer. Ce serait une erreur. Nous sommes très attachés à l'indépendance de l'organisation syndicale. Nous n'avons nullement l'intention de nous faire instrumentaliser, pas plus que nous avons l'intention d'instrumentaliser qui que ce soit.
Yves Verrier de Force ouvrière est reparti amer de Matignon.
La question des salaires n'est pas réglée. Dans la fonction publique, eh bien, il y a par exemple zéro augmentation du point indice et zéro prime exceptionnelle quasiment pour les 5 500 000 fonctionnaires. Donc il y a des attentes qui ne peuvent pas attendre le grand débat ou le cadre du grand débat ou la fin du grand débat.
Apporter vite des garanties sociales, c'est aussi la demande du syndicat des cadres, CFE-CGC, son président François Omeril.
La vraie nature du problème, c'est le problème du pouvoir d'achat. C'est le problème des difficultés qu'il y a aujourd'hui à vivre de son travail de façon correcte. Ça, c'est le problème de fond. Or, le grand débat qui est bien qu'il ait lieu ne réglera pas ce problème de fond. Ce problème de fond, il faut l'attaquer avec des politiques beaucoup plus profondes et beaucoup plus sur le long terme.
Certains syndicats craignent l'enfumage, parler beaucoup pendant 3 mois et que finalement rien ne change. Laurent Berger de la CFDT ne veut pas que cela arrive.
Il faut que ce débat, il serve à quelque chose. Qu'il y ait une loyauté dans la retranscription de ces débats. Et donc nous avons demandé qu'à l'issue de ce débat s'organise une sorte de Grenelle du pouvoir de vivre pour essayer de faire émerger des solutions concrètes.
Il y avait aussi ce matin 2 absents, la CGT et le syndicat solidaire. Ils ne sont pas venus à Matignon, ils ne croient pas du tout en un changement de politique d'ici fin mars.
Merci Pauline Renoir. Demain, samedi 12 janvier, 80 000 effectifs des forces de l'ordre seront répartis sur tout le territoire avec quelques points d'inquiétude pour les autorités qui craignent les débordements et les violences, notamment à Paris et à Bourges où un appel a été lancé pour manifester au plus près du centre géographique de la France métropolitaine. Un acte neuf des Gilets jaunes qui se prépare et qui montre en tout cas que la mobilisation ne s'essouffle pas, que les moteurs de la contestation sont toujours allumés. Ce qui n'étonne pas Bruno Cotres, chercheur au CEVIPOF. Il est un des auteurs du baromètre de la confiance préparé par le Centre d'études de la vie politique, publié ce matin par le Figaro. Un baromètre qui décrypte la crise de confiance du moment et qui la replace en même temps dans un contexte géographique et temporel plus vaste.
On a vu ce sentiment de défiance, de dégoût vis-à-vis du fonctionnement de la politique s'exprimer dans de très nombreuses vies politiques en Europe. Il y a eu également des forces politiques qui sont venues proposer aux citoyens, aux électeurs, des solutions. Certains les ont qualifiées de populistes, par exemple, en disant « c'est nous qui allons être le porte-voix du peuple ». Donc ça n'est pas simplement en France. Deuxième point de recul, ça n'existe pas que depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça fait 10 ans que nous observons ce phénomène, même si là, nous sommes à des niveaux très élevés de défiance. Mais il n'y a pas que sous le mandat d'Emmanuel Macron que nous avons constaté. Et puis, il y a une troisième explication, qui est une explication plus court-termiste, qui parle particulièrement de ce moment que nous vivons en ce moment en France. Nous avons fait le terrain de cette enquête. Eh bien, à la fin du mois de décembre, dans la crise des Gilets jaunes, et le sentiment de colère, d'exaspération est comme une espèce de brûlure vis-à-vis des Français. Le sentiment est bien que dès qu'on parle de ces questions, on réagit instantanément. Les indicateurs de demande de justice sociale sont à des niveaux extrêmement élevés également. Et donc on voit qu'il y a à la fois des explications de long terme, cette crise dans laquelle nous sommes depuis plusieurs décennies, les citoyens ont le sentiment que les hommes et femmes politiques n'ont pas été assez empathiques vis-à-vis d'eux dans toutes ces transformations que nous vivons, et puis des explications plus de court terme françaises et qui concernent le mandat d'Emmanuel Macron.
Bruno Cotterès du Cevipof répondait à Rosalie Lafarge. Alors est-ce une réponse à la crise, à cette brûlure dont parlait Bruno Cotterès à l'instant? La prime de fin d'année défiscalisée et non soumise aux cotisations sociales dont la création avait été annoncée en décembre par Emmanuel Macron, justement en réponse aux Gilets jaunes. Cette prime sera versée à 12 000 salariés d'ArcelorMittal dans la première quinzaine de février, annonce faite aujourd'hui, révélée par France Bleu Loire-Océan. Montant de la prime, 500 euros. Autre entreprise concernée, Carrefour, où là 200 euros seront versés aux salariés gagnant jusqu'à 4 500 euros bruts par mois. 18h16 sur France Culture. Voici l'enquête du service investigation de Radio France, comme chaque vendredi, à propos d'une affaire qui intéresse déjà la justice et qui ne manquera pas d'interpeller sans doute les électeurs, gilets jaunes ou non. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Benoît.
Pendant des années, certains parlementaires, députés ou sénateurs ont pu détourner à leur profit l'enveloppe normalement consacrée à leurs frais professionnels. 15 parlementaires et anciens parlementaires sont visés par une enquête préliminaire et vous avez voulu, Sylvain, en savoir plus.
Oui, parce qu'on sait hein, maintenant depuis un mois que la justice soupçonne ses 7 députés et 8 sénateurs d'avoir utilisé à leur profit hein, cette enveloppe d'environ 6 000 euros qu'ils touchent tous les mois, leur indemnité de frais de mandat, dont l'usage n'était absolument pas contrôlé, hein, il faut le savoir, jusqu'à il y a peu. On ne connaît pas leur nom, mais ce que nous révélons, c'est que 7 d'entre eux siègent toujours à l'Assemblée et au Sénat. Ils auraient payé des dépenses personnelles avec leur carte bleue professionnelle, mais certains députés auraient également emprunté de l'argent à l'Assemblée. Alors il faut savoir que potentiellement c'est légal, hein, c'est possible. Simplement, ils auraient emprunté pour leur compte personnel et remboursé via leur indemnité de frais de mandat. Et ça, c'était interdit du moins après 2015. À vrai dire, tout cela n'est pas extrêmement surprenant. Hein. On savait depuis longtemps que l'indemnité de frais de mandat pouvait servir à tout autre chose, comme me l'a raconté l'ancienne députée écologiste Isabelle Attard. En 2012, elle a reçu de drôles de visites dans sa permanence parlementaire.
J'ai tout à coup vu arriver pas mal de gens qui venaient avec leurs feuilles de redevances télé. Et en fait, j'ai réalisé qu'ils s'attendaient à ce que je les aide à payer une partie de leurs impôts. J'ai vu aussi des gens qui me demandaient de payer leur PV. Quand c'est une fois, deux fois, trois fois, vous commencez quand même à vous poser des questions. Et je me suis dit, bon, bah, c'était sans doute des pratiques précédentes.
Alors, ce que vous nous révélez ce soir, Sylvain, c'est qu'au moins une autre parlementaire aurait, elle aussi, abusé de ses frais de mandat.
Il s'agit d'Anne-Christine Lang, actuelle députée La République En Marche, mais qui siégeait dans les rangs du PS en 2016, une période pour laquelle nous avons obtenu ces relevés de compte de frais de mandat. Et ils sont assez étonnants. On y trouve des paiements chez des médecins, dont un dentiste pour 1000 euros, des paiements dans des pharmacies, des supermarchés, des magasins de jouets, bref, des dépenses qu'on a du mal à qualifier de frais de mandat. Alors, elle explique qu'elle faisait des courses pour ravitailler sa permanence. Bon, il y en a tout de même pour 1500 euros de supermarché. Et sinon, pour le reste, elle plaide la négligence. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi découvert qu'elle avait emprunté 18 000 euros à l'Assemblée, à titre personnel, mais qu'elle le remboursait via son indemnité de frais de mandat.
Alors ces relevés de comptes professionnels suspects, disons, ils sont en ligne sur notre site internet franceculture.fr. Alors, il y a tout de même eu une réforme en 2017 pour éviter ces abus, Sylvain. Est-ce qu'elle est suffisante, cette réforme?
Et la réponse, c'est non. Alors évidemment, c'est mieux encadré aujourd'hui, mais les abus sont toujours possibles parce que les parlementaires ne seront pas contrôlés tous les ans, parce qu'ils se sont gardés une enveloppe pour laquelle ils n'ont pas besoin de facture, 600 euros par mois chez les députés, 900 euros par mois chez les sénateurs. Et puis parce que le contrôle sera en fait de l'autocontrôle. Des députés surveilleront les députés. Les sénateurs, eux, seront surveillés par un comité de déontologie composé uniquement de sénateurs. Écoutez ce qu'en pense Paul Cassia, professeur de droit à Paris 1.
C'est de l'enfumage. Pour qu'il y ait un contrôle, il faut un regard extérieur. Or, qu'ont fait les sénateurs? C'est de l'autocontrôle. Un autocontrôle n'est pas un contrôle. Imaginons par exemple que M. Gérard Larcher utilise mal ses frais de mandat, le président du Sénat. Qui va aller dire au président du Sénat qu'il utilise mal ses frais de mandat?
peut se poser la question. Hein. Et forcément, au regard des abus du passé, eh bien, il est difficile d'avoir confiance dans ce système.
Merci Sylvain Tronchet. Votre enquête en longueur est à retrouver et à réécouter sur notre site internet franceculture.fr. Pas de libération conditionnelle pour Jean-Claude Roman, en tout cas pas pour l'instant. Le tribunal de l'application des peines de Châteauroux a demandé la tenue d'une nouvelle audience avant de se prononcer sur la demande de l'ancien faux docteur Roman qui en 93 avait assassiné sa femme, ses parents et ses enfants. Nouvelle audience fixée au 31 janvier. Nuages, pluie et neige au nord, soleil et vent au sud. Voilà pour le tableau météo. Demain samedi, de l'Alsace jusqu'en Auvergne, de légères chutes de neige se produiront à basse altitude, voire en pleine, température minimale jusqu'à moins 5 degrés sur le massif central, maximale prévue entre 3 et 8 degrés.